Istrati, solitaire, solidaire. Et alors là, j'entends dès le début mon professeur d'université me dire « Mais c'est un oxymore !» Il avait raison, c'est un bel oxymore. Mais voilà, s'il y a un autre mot pour désigner la personne qui est à la fois solitaire et solidaire, moi je veux bien, mais il faudrait peut-être l'inventer. Bon, passons sur l'oxymore, les oxys, les morts, et parlons des vivants. Pour camper le personnage Istrati, nul ne saurait mieux faire qu'Istrati lui-même. Il se confie à Henri Poulaille, l'auteur du Pain quotidien et théoricien de la littérature prolétarienne. Dans le journal syndicaliste Le Peuple, le 21 décembre 1924. « Je suis né, dit-il, le 11 août 1884, à Braila. Je porte le nom de famille de ma mère, paysanne roumaine, qui, n'étant pas légitimée, avec mon père, me déclara comme fils naturel. Je n'ai eu ni frère ni sœur. Mon père, avec lequel ma mère vécut 8 années tumultueuses, mais dans l'aisance, était grec, originaire de Céphalonie. Quand j'avais 9 mois, il mourut épileptique et poitrinaire. Il faisait à Braila la contrebande du tabac turc, trafiquant entre la Dobroudja turque et la rive roumaine, et il gagnait beaucoup d'or. Aux agents qui le traquaient, il se donnait comme marchand de fruits. Aussi, notre maison, qui cachait dans ses meubles à secret les paquets de tabac interdits, était garnie jusqu'au comble de rayons de pommes, de poires et coings qui servaient simplement à sauver les apparences et dont le parfum cachait celui du tabac. Cela n'a pas évité à mon père ni de grosses amendes, ni maintes journées de prison, à cause des indiscrétions et des délations. Les deux frères de ma mère, les oncles Angel et Dimi, aussi bien que son père même, étaient aussi contrebandiers. Le dernier, vieillard de 70 ans, paya même de sa vie son mépris de la douane. Il fut tué dans une fusillade nocturne au cours d'une poursuite dramatique sur le Danube. Cette mort jeta mon père dans le désespoir. Il se ruina et mourut très vite, laissant ma mère dans la misère, mais entourée d'amis dévoués, tous contrebandiers. Très fière et d'esprit indépendant, elle préféra d'ailleurs aller travailler de ses mains et laver du linge pour m'élever. Je dois vous dire, d'après ce que m'a raconté oncle Angel, que beaucoup des ancêtres de ma mère ont quitté leur village, révoltés par l'oppression turque, et sont allés se livrer au brigandage national. C'est leur vie qui fera le fond des récits d'Adrien Zografi. Ainsi, je n'ai connu ma mère que dans la peine. Nous avions vécu ensemble dans l'économie la plus stricte. Je ne l'ai abandonnée qu'à 14 ans, poussée par un impérieux besoin de vagabondage. Mon enfance, je l'ai passée en partie à Braila, en partie dans le hameau de Baldonivechti, à 5 km de Braila, lieu d'origine de ma mère. Elle fut gaie, joyeuse, exempte de soucis jusqu'à 12 ans. À cette date, ayant fini en 5 ans mes classes d'enseignement élémentaire, je me suis refusé d'aller plus loin, malgré les recommandations du professeur et le désir de ma mère. La voyant travailler de 6h du matin à 8h du soir, pour 1,50 francs par jour, j'ai craint qu'elle ne succombât sous la fatigue et, un jour, sans rien lui dire, je me suis embauché chez un cabaretier au prix de 60 francs l'année, nourri, logé et habillé. J'y suis resté 1 an, travaillant de 6h du matin à minuit. J'ai quitté cette place parce que, n'arrêtant pas de lire dans les heures calmes de la journée, ce que ne pouvait comprendre mon patron, qui me rossait de coups toutes les fois qu'il me prenait sur un livre, je voulus sacrifier à mes lectures 1 ou 2 heures de la nuit. Mon excellent patron me déclara que la nuit même ne m'appartenait pas. Ce fut le début d'un vagabondage qui dure encore en ce moment et qui durera toute ma vie. Car rien ne m'arrête, rien ne me plaît et en rien je ne suis stable. C'est une vraie malédiction. J'ai été tour à tour garçon épicier, garçon boulanger, domestique, apprenti mécanicien, docker, apprenti serrurier et forgeron. Enfin, vers les 18 ans, apprenti peintre en bâtiment. J'ai eu là, enfin, un patron pauvre, lui aussi, et plein d'humanité, qui me traitait avec égard et avec lequel je restais 2 ans. Aussi, est-ce comme peintre en bâtiment que j'ai depuis travaillé presque partout, et à Paris même, où je travaillais l'an dernier. J'ai passé mon adolescence en Roumanie, jusque l'âge de 22 ans, changeant de région chaque fois que je changeais de métier, et inversement. À ce moment-là, je connaissais toute la littérature roumaine et tout ce qu'il y avait de traduit de l'étranger. C'est en 1906 que je quitte pour la première fois la Roumanie, embarquant en cachette sur un bateau roumain qui faisait le trajet entre Constanza et Alexandrie d'Égypte. Pendant 2 ans, je visite Le Caire, Le Pirée, Athènes, Naples, de nouveau Alexandrie et Le Caire, puis Port Saïd, Jaffa, Jérusalem, Beyrouth, les villages du Liban, Damas, Alexandrette, Mersine, Tripoli, et je rentre enfin en Roumanie par Constantinople. De 1906 à 1912, je passe tous les hivers au Caire, l'été en Roumanie, à cause d'un commencement de tuberculose que je dois cicatriser en Égypte. Presque tous mes voyages sont faits sans billets, parfois échappant au contrôle, parfois surpris, débarqués ou acceptés à condition de travailler à bord. Sur terre, je marche beaucoup à pied et souvent, je m'accroche au train qui passe. À l'étranger, je travaille autant que je peux comme peintre en bâtiment, mais à défaut, je fais de tout. Je lave la vaisselle dans les restaurants où je sers comme garçon, je porte des sacs ou des poutres en fer dans les ports, je fais l'homme sandwich au Caire, je figure dans une troupe de pantomime à Damas et à Beyrouth. Il m'est arrivé de manger 4 fois dans une semaine entière et de coucher 1 mois à la Belle Étoile, comme à Naples en 1907. Mais je n'arrête jamais de lire. Je parle le grec depuis l'âge de 12 ans. En Égypte et en Italie, j'apprends l'italien et un peu l'arabe et aussi l'allemand. En 1913, après d'innombrables efforts pour mettre le pied sur la terre française, je viens à Paris, parti de Bucarest avec un billet et un passeport en règle. C'était la première fois que cela m'arrivait. Mais je ne reste que 3 mois, ne pouvant me faire comprendre et Paris me déplaisant fort. De retour en Roumanie, un peu dégoûté de toujours manquer d'argent, je me mets au travail. Je fonde une petite ferme pour l'élevage des porcs et je me marie avec une juive, militante socialiste convaincue. La guerre arrive. Mes porcs sont en danger d'être rôtis par d'autres que moi. J'en avais 40, gros et petits, tous beaux et mieux éduqués que des hommes. D'un autre côté, le mariage m'allait fort mal. Au bout de 10 mois, j'en avais assez. Je vends mes pauvres porcs et je pars en Suisse. Nous sommes à la fin de mars 1916. La guerre bat son plein. Mais exempté de service, je puis partir 4 ou 5 mois avant l'entrée en guerre de mon pays dans la danse. 4 années en Suisse où je parcours la moitié de la Confédération. Après avoir passé quelque temps à Munich, Dresde, Vienne et Budapest. En Suisse, je m'arrête à Lesin, canton de Vaud, où je grignote en 4 mois de douce flânerie mes 1500 francs d'économie. Je prends le taureau par les cornes. Terrible taureau, la langue française. Ma tête prenant pour de l'hébreu toute règle grammaticale, je me jette sur Télémaque et, à l'aide du dictionnaire franco-roumain, je déchiffre mot par mot. C'est le plus grand plaisir intellectuel que j'ai jamais connu. Plaisir qui, avec les progrès rapides, m'arrachait des cris plus joyeux que la plus belle lecture. Ah, merci à la vie pour les émotions qu'elle me fit vivre dans ces 4 mois à Lesin. Sur de grosses fiches à énorme écriture, accrochées au mur et portant en ordre alphabétique les mots français et leur traduction, j'inscrivis au crayon plus de 5000, entre guillemets, paroles évangéliques. Sorti des plumes de Fénelon, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Pascal, Montaigne, La Rochefoucauld, Madame de Staël, Madame de Sévigné, Saint-Augustin, Malebranche. Que le paradis leur soit octroyé à tous dans le ciel. Ils ont été mes grammairiens, en même temps que des compagnons qui me parlaient droit au cœur, me fouettaient l'intelligence et m'apprenaient à estimer la vie. Je me suis plus d'une fois querellé avec eux, et cependant, comme je les aime et les estime, ils ont été de si grands jouisseurs de l'esprit. Après ces 4 mois de bonheur, j'ai eu une période d'extraordinaire détresse. Je plante des poteaux de télégraphe dans la vallée de l'Orbe. Je travaille avec la pioche sur les mêmes routes de Lézin où je flânais quelques semaines auparavant. Je déblaie la neige sur les patinoires. Je pousse des brouettes de terre aux environs de Lausanne et de Fribourg. Je vagabonde inutilement à Zurich, Bâle et Berne. Je bricole, allant à pied de village en village, puis à Genève, où je tire la corde d'un marteau pilon chez Picpic. C'est le nom de l'entreprise Picard et Pictet. À ce moment, on me propose un poste de conducteur de tracteur américain. J'accepte. Et pendant toute l'année 1918, je laboure la terre suisse entre Villeneuve et Sion, canton de Valais, sans me douter que Romain Rolland était à Sierre, sans me douter de son existence même, et encore moins du rôle qu'il allait jouer dans ma vie. C'est seulement à la fin de cette campagne de labourage que, pris par la grippe et interné dans le sanatorium de Sylvanas-sur-Lausanne, j'apprends l'existence de Rolland. Dans une de nos heures de repos, me plaignant à un co-malade de la sécheresse, du manque d'élan, du peu d'humanité de certaines littératures modernes, il me recommande de lire Jean-Christophe et les 3 vies de Romain Rolland, les vies de Beethoven, de Tolstoï et de Michel-Ange. Ce fut le salut. Mon cœur s'embrasa. Pour la première fois, depuis que je lisais des livres, je sentis l'auteur tout près de moi. Heureux comme moi et malheureux comme moi. La maison de santé me devint insupportable. Je la quittais, j'allais à Genève et m'embauchais dans le garage Peugeot, où, en peignant les tracteurs, j'achevais de lire l'œuvre entière de Rolland. Elle me redressa sur mes jambes et fortifia mon âme défaillante. C'était bien le moment, car, à peine la lecture finie, une carte postale m'apprit un soir que, chez nous, à la maison, tous les voisins allaient bien, sauf ma mère qui venait de mourir dans la semaine de la Passion, avril 1919. Mon équilibre se rompit aussitôt. La terre me parut un désert. Je tombais gravement malade. Dans de longues heures de pleurs et d'insomnie, seul dans ma chambre remplie de solitude, je relisais les pages si vraies, si imprégnées de chaude pitié, de la mort de Jean-Christophe. Quand un journal m'apprit que Romain Rolland venait de descendre à l'hôtel Victoria d'Interlaken pour un long séjour, je me croyais mourant et fort peu certain de mes 3 ans de langue française. N'empêche, l'idée du ridicule ne me passa pas par la tête. Pareil au naufragé qui se jette sur une planche, je pris la plume et couvris 20 pages tout en pleurant. Je lui racontais ma vie. Quelques jours après, la lettre m'était retournée avec la mention « Parti sans adresse ». Je me suis dit que le destinataire, suspectant ma lettre, l'avait refusée. Mais, comme je n'aime pas couper une tête d'homme, je me suis résigné. Je précise, l'expression « couper une tête d'homme », Istrati veut dire par là qu'il ne peut pas supprimer de sa pensée un être auquel il a fortement pensé. D'ailleurs, j'ai appris depuis que Romain Rolland était parti, en effet, après un séjour de 10 heures à Interlaken. En 1919, j'étais à Nice et, dans l'impossibilité absolue d'obtenir un emploi quelconque, considérant l'inutilité de mon existence, je me coupais la gorge. On trouva dans ma malle la lettre que j'avais écrite à Romain Rolland, qu'elle finit ainsi par atteindre. Mais Istrati ne s'était pas tué. Alors je fais une petite rectification là. Ce n'est pas en 1919 qu'Istrati était à Nice, c'est en novembre 1920 qu'il arrive à Nice, et c'est le 3 janvier 1921 qu'il tente de se suicider, dans le square Albert Ier, qui jouxte la promenade des Anglais. 6 mois après, à ma sortie de l'hôpital, je trouvais la réponse de Roland. « Ce n'est pas seulement parce que vous souffrez que votre lettre m'a ému. Non, c'est parce que j'y vois luire, par éclair, le feu divin de l'âme. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette force qui est en vous. Il se peut que le meilleur d'elle se soit brûlé, se brûle en des passions, mais elle est en vous. Mais je n'attends pas de vous des lettres exaltées, m'écrivait encore Roland. J'attends de vous l'œuvre, réaliser l'œuvre plus essentielle que vous. Je me mis alors à écrire les souvenirs de ma vie errante. 3 ans d'efforts acharnés vont conduire Ristrati à discipliner son écriture, à choisir le texte court, le récit, plutôt que le long fleuve, très à la mode à l'époque. Romain Rolland préface son premier livre et présente son auteur comme un nouveau Gorki des pays balkaniques. Kira Kiralina est un succès littéraire et la critique de l'action française à l'humanité ne tarit pas d'éloges. Oncle Angèle est publié dans la foulée. L'écrivain roumain est rapidement admis dans la cour des grands. Frédéric Lefebvre, le Bernard Pivot de l'époque, en parle comme un des plus grands conteurs du monde. Voici le début d'Oncle Angèle. Par cette nuit tombante de début d'avril, le hameau de Baldomivesti, situé à environ 5 km de Braila, fêtait le premier jour de la résurrection du Christ. Toutes les cours, les paysans allumaient des moyettes de roseaux secs. Partout, de joyeux coups de fusil retentissaient. Hommage rustique orthodoxe rendu à la mémoire de celui qui fut le meilleur des hommes. Dans la chaumière de l'oncle Dimi, le cadet de la famille, la mère Zoïdza, l'aîné des 4 frères, et son unique fils, Adrien. Cette première partie du récit met en scène l'oncle Angèle, en réalité un des frères de la mère d'Istrati, une figure de Job moderne, qui voit sa maison incendiée et ses 3 enfants mourir l'un après l'autre. La seconde partie raconte les aventures de Cosma, le contrebandier, dont la devise est « Vivre en liberté ou mourir ». Apparaissent les personnages de Jérémy, d'Élie et de Floricica, esprits libres et révoltés qui ne se satisfont dans cette existence d'aucune demi-mesure. Nous les retrouvons, tous ces personnages, dans les 2 livres suivants, « Présentation des Haïdouk » et « Donitza de Znagov », au tirage, à l'époque, de 35 000 exemplaires. Des tirages supérieurs à ceux d'auteurs comme Henri Bordeaux, François Mauriac, André Gide. Ça a été fulgurant. Leur lecture a le mérite de nous redonner le goût de cette liberté, sauvage, originelle, sans entrave. Je veux dire corporelle, vibrante, vivante, à laquelle nos contemporains, comme les contemporains d'Istrati d'ailleurs, semblent bien étrangers, hypnotisés que nous sommes devant l'avalanche de biens matériels et le désir de profit qui asservissent l'homme au point d'annihiler en lui cette soif de liberté. Istrati dénonce cette distorsion des valeurs fondamentales. D'où la nécessaire révolte, le nécessaire combat pour reconquérir la liberté première, la liberté à laquelle la condition d'homme donne droit. Les Haïdouk vivent de et pour cette liberté, excluant toute servitude pour eux et pour leurs frères de misère, les paysans roumains. Pourchassés par les boyards ou l'occupant turc, ils se réfugient dans les forêts, là où les éléments naturels, dont ils se sentent fraternels, sont garantis de libre arbitre contre la servitude imposée par les propriétaires terriens en échange d'une maigre bouchée de pain. Hors la loi, brigands, chevaliers errants, maquisards, rebelles, révoltés de la bonne cause, les Haïdouk ne sont pas pour autant des enfants de cœur et agissent souvent par vengeance. Il s'ensuit violence et répression. Nous sommes vers 1850 et leur action n'est pas organisée comme les mouvements de libération nationale que nous connaîtrons au XXe siècle. Mais, sous l'impulsion d'une femme, Florea Kodrilor, ils vont élargir et amplifier leurs efforts, contribuant ainsi à l'unification qui, par la suite, mènera à l'indépendance de la Roumanie, acquise seulement en 1878 La Roumanie est une nation jeune. Les haïducs auront forcé le peuple victime à ouvrir les yeux. Dans leur genre, ils sont les précurseurs des révolutionnaires. Ils deviennent des figures de légende et on retrouve leurs exploits comptés dans les romances populaires. Istrati en nourrit son imaginaire et conséquemment son œuvre, mais l'œuvre, on le verra, ne lui suffit pas. L'art est en effet une belle chose, mais qui ne va pas jusqu'à supprimer les injustices sociales qu'Istrati continue de ne pas supporter. La vie, elle, est faite des préoccupations quotidiennes qui lui sont chères, comme l'amitié, la connaissance des hommes, la contemplation de la nature, la confrontation avec les vraies valeurs en acte, voilà qui est aussi important que l'œuvre d'art. Alors qu'un Romain Rolland lui affirme le contraire, qu'il est un artiste et qu'il doit se concentrer sur la création de l'œuvre qui seule lui survivra. Mais on va le voir, Istrati veut vivre et non survivre. Le succès de ses premiers livres aurait pu en effet conduire Istrati à s'embourgeoiser, à s'en tenir à écrire sagement des contes, mais non, il refuse de devenir un professionnel des lettres. Il ne peut s'enfermer. La rue, tout ce qui bouge, tout ce qui crie, le retient. Et de nouveaux nuages s'approchent. Voici un extrait de Donitza Doznagov de la préface. « Après une absence de 10 ans, je suis allé, pendant l'été 1925, revoir mon pays, la Roumanie, devenue la Grande Roumanie, avec le concours de la France, aidée elle-même par d'autres nobles et généreuses nations. Ce que j'ai vu, appris et senti, durant les 2 mois que j'ai séjourné entre le Dniester et la Tesse, m'a convaincu que je fendais l'eau avec une hache. En effet, alors que je m'évertuais à décrire des horreurs turques et grecques du temps de l'occupation, le gouvernement roumain exterminait, avec une férocité autrement médiévale, la population de cette grande Roumanie qui n'était plus occupée maintenant par personne. Mes histoires de viols et de massacres d'il y a 100 ans pâlirent devant les fusillades d'enfants, de vieillards, de femmes et de bébés que des officiers de l'armée régulière, déclarés héros nationaux par le Sénat roumain, poursuivaient et abattaient à travers les campagnes de la Bessarabie. On le voit, passé, présent, public, privé, sont chez Istrati indissociables. Tout cela vit en lui intensément, et il est des rares écrivains dont la vie est aussi intéressante, aussi éblouissante que l'œuvre. Il fallait entendre le conteur. Je sépare le conteur de l'écrivain. J'ai eu la chance de rencontrer à Paris et puis à Nice Marga Istrati. Évoquant son mari, elle en parlait avec une telle ferveur qu'elle refaisait vivre Panaïte devant nous et recréait tout l'enchantement. Intarissable, il enflammait et subjuguait son auditoire. Toute distance était abolie entre la vie et l'œuvre d'art. Elle ne formait plus qu'un. Lui, Istrati, en était le dénominateur commun, l'acteur-créateur en marche. Voici Codine. On peut commencer, si vous n'avez encore rien lu, par ce récit. Codine est un ancien bagnard à la force herculéenne qui n'inspire autour de lui que crainte et mépris. Il vit chez sa mère, Anastasie, qui le hait depuis son enfance, au cœur du misérable quartier de Komorovka, près du port de Braila sur le Danube. Sa maîtresse, Irène, et son ami, Alexis, sont ce qu'il a de plus cher au monde. Le jour où Codine rencontre Adrien Zografi, un jeune garçon d'une dizaine d'années, si différent des garnements de la Komorovka, tout paraît changé dans la vie du géant. Le gamin, en effet, tempère par sa pureté et sa tendresse la violence de Codine qui, en retour, lui enseigne son expérience de la vie et de ses injustices. Zoïdza, la mère d'Adrien, se prend aussi d'amitié pour Codine, qui l'a sauvé d'une épidémie de choléra qui ravageait le quartier. Le réalisateur français Henri Colpi mettra en scène au cinéma Codine en 1963, film qui sera primé au Festival de Cannes. J'ai eu la chance, ce film n'est pas dans le public, il n'y a même pas de cassette vidéo ni de DVD. Et j'ai eu un mal fou à le récupérer à la Cinémathèque, mais la chance quand même, avec persévérance, de pouvoir le passer dans ma région 5 fois de suite, c'est fabuleux. Colpi, c'est un très grand réalisateur, il a fait bien d'autres films. En 1984, il en sera même réalisé une bande dessinée que vous avez ici, Codine, dans cette bibliothèque de poche. Alors, Istrati publie encore Mikhaïl, qui est un hymne à l'amitié. Neransula, étonnante ballade à l'expression poétique telle une chanson. Le vrai titre au départ, c'était pas Neransula, c'était le refrain de la fosse. C'est pourquoi je vous parle de chanson et aussi de musique. Et la musique tient donc une grande place, ce serait d'ailleurs quelque chose à étudier ça de plus près. Et puis aussi, à propos de Neransula, eh bien, il y avait encore, je pense qu'elle n'existe plus, il y avait dans le 15e arrondissement une librairie musicale qui s'est appelée Neransula. C'était dans les années 80, mais maintenant je crois qu'elle est fermée. Ensuite, il écrit en 1928, ça paraît en 1928, Les Chardons du Baragan, je prononce à la française, livre qui est dédié au peuple de Roumanie, à ses 11 000 assassinés par le gouvernement roumain, aux trois villages, Stanilesti, Bailesti, Odiu Voaia, rasés à coups de canon. Crime perpétré en mars 1907 et resté impuni. Louis Daquin, réalisateur aussi français, adaptera au cinéma en 1956 cette tragique épopée de la paysannerie roumaine, pressurée, exploitée, odieusement martyrisée par les boyards. On ressent toujours chez Istrati cette avidité de tout comprendre, de tout sentir, et la misère qu'il a sous les yeux, en même temps, c'est un appel vers les richesses du monde. Je cite en exemple la description du passage du quartier malsain qu'est la Komorovka à un autre quartier. À peine eus-je quitté les dernières maisons du quartier, qu'un grand air printanier, prématurément chaud, m'enveloppa dans son odeur de campagne humide. Les herbes sauvages se dressaient partout, joyeuses et luxuriantes. Et alors j'aperçus qu'entre moi et l'abattoir, il y avait une large fosse, vestige des anciennes fortifications de Braila, où passait le chemin de fer, entre deux pentes d'herbes sillonnées par des sentiers. À l'instant, j'oubliais mon dégoût du quartier, et m'élançant sur un des chemins, j'ouvris les bras et m'écriai joyeusement « C'est beau !» Maintenant, je laisse dire Albert Camus, dans sa préface « À l'envers et l'endroit ». J'ai été placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Istrati Camus, deux hommes révoltés, par la misère et l'injustice, épris de beauté, dont je ne peux ici développer tout ce qui les rapproche. Je pense à l'absurde, décrit et vécu par le théoricien philosophe, et au même absurde, décrit et vécu par le conteur roumain. Je cite encore un nom pour ceux qui voudraient poursuivre dans cette voie, Méditerranée. Un événement. Octobre 1927. Istrati, sympathisant communiste et admirateur de l'URSS, est invité par les dirigeants soviétiques à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution. Il va passer 16 mois dans la grande patrie prolétarienne et en revenir plus insoumis que jamais. Enthousiaste au départ, il en revient effondré par ce qu'il a vu. Il a pu en effet, en dehors des visites officielles imposées par ses hôtes, accomplir un périple dans des régions éloignées de la capitale en compagnie de son ami l'écrivain grec Nikos Kazantzakis. Il a l'avantage également de parler et de comprendre le russe. À son retour, en février 29, il hésitera longtemps avant de dévoiler toute sa pensée. Un double, voire triple drame se joue en lui, celui de la trahison. Doit-il trahir ses amis et la révolution? Doit-il trahir le prolétariat dont il est issu? Doit-il se trahir lui-même? Que dire à ses amis communistes qui attendent d'un compagnon de route qu'il donne son opinion sur les aspects positifs de la grande œuvre en cours? Car s'il comprend bien qu'une révolution ne peut se réaliser sans violence, sachant qu'on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, à la question des turiféraires, il répond « J'ai vu les œufs cassés. Où est passée l'omelette ?» Et que dire à Romain Rolland? On va suivre leur dialogue dans la correspondance qui a été publiée dans les cahiers Panait Istrati et par les éditions Canva. Étrange relation en effet entre un prix Nobel de littérature et un autodidacte roumain choisissant d'écrire en français. Fondamental, comme on va le voir, mais paradoxal, au point qu'un Georges Brandes, le grand critique danois, se permit de dire à Istrati « Je sais apprécier Romain Rolland, comme il le faut. Je suis un peu étonné que vous vous sentiez apparenté à lui. La différence est très grande et grandira, je crois. Il nous faut bien admettre qu'une telle amitié, poussée jusqu'à son paroxysme, douloureuse, est aussi porteuse d'actes créateurs et d'éclairs de génie. Il me vient à l'esprit, pour traduire ici cette relation, ce dialogue crucial qui porte en lui l'avenir des peuples de l'Europe. Avenir qui peut encore, à cette date de 1929, s'infléchir dans une direction autre que celle du totalitarisme. Il me vient l'image du J'accuse de Zola. Zola, dont Anatole France a pu dire qu'il fut un moment de la conscience humaine. Avant de quitter l'URSS, Istrati envoya au secrétaire du GPU, la police politique de l'État soviétique, deux lettres. Lettres écrites les 4 et 19 décembre 1928. Ces lettres résument son attitude envers le régime. Voici un large extrait de ces lettres. « Cher camarade Gerson, aucun retour complaisant vers le capitalisme et la bourgeoisie, lesquels sont à détruire malgré les défaillances idéologiques et morales du régime soviétique. Les maux actuels du régime soviétique sont, à mes yeux, remédiables, à condition de les frapper. Confiance absolue dans la classe ouvrière soviétique qui doit trouver la force et les moyens de guérir les maux de son propre régime. Je ne crois nullement que ce redressement incombe à l'opposition, ainsi que pensent certains oppositionnistes obtus. Par contre, laissée à elle seule, l'opposition est capable d'erreurs tout aussi graves. Je ne vois qu'un seul moyen de sortir de l'impasse critique actuelle. C'est, petit a, de cesser de combattre l'opposition par des moyens de terreur. Petit b, proclamer le droit de critique dans le parti pour tous les membres, même pour les exclus pour faute d'oppositionnisme. Et petit c, de créer le vote secret dans le parti et dans les syndicats. Voilà ce que j'appelle être aujourd'hui un bon communiste. Je crois profondément dans les forces vives qui se taisent aujourd'hui au sein de la classe ouvrière, laquelle doit vraiment dicter, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Le camarade Gerson ne répondra pas. Istrati communiquera ses lettres à Romain Rolland le 28 mai 1929. Voici la réaction de l'auteur de Jean-Christophe. Je viens de lire vos deux lettres au GPU. Elles sont magnifiques. Vous avez fait ce que vous deviez, ce que vous pouviez. Vous ne pouvez rien de plus. Ces pages sont sacrées. Elles doivent être conservées dans les archives de la Révolution éternelle, dans son livre d'or. Nous vous aimons encore plus et vous vénérons de les avoir écrites. Mais ne les publiez pas. Ce dialogue par lettre que je vous invite à lire est, je pense, un haut moment de la conscience humaine et montre de manière éclairante le drame intense que vit l'humanité en ce XXe siècle. Drame pour Istrati, car il faudra, contrairement au cas de Zola, plusieurs décennies avant que la petite flamme allumée par le poète, mais petite flamme inextinguible, déploie sa vérité sur le monde. Mais en 1930, c'est un double drame pour Istrati qui va vivre la rupture avec Romain Rolland, comme celle d'un père avec son fils. Cette relation père-fils, qui est inscrite en filigrane dans toute l'œuvre et la vie de Panaït Istrati, est analysée par Elisabeth Gebelesco dans sa thèse de doctorat « Panaït Istrati et la métaphore paternelle » publiée aux éditions Entrepos en 1989. Je vous recommande si vous voulez aller plus loin. Contre l'avis de Romain Rolland, qui l'objurgue de ne pas publier son récit, considérant que ce serait un coup de poignard dans le dos de la Révolution, la relation très critique de son voyage paraît, sous le titre de « Vers l'autre flamme », après 16 mois en URSS, confession pour vaincu, 1929. C'est la rupture avec Romain Rolland qui a pris fait et cause pour la Russie stalinienne. C'est la rupture avec la gauche française qui va le traiter de renégat, voire de fasciste, car à cette époque, on ne pouvait être que de l'un ou de l'autre bord. Il retourne en Roumanie, où il est traité de communiste et persécuté par la police politique, la Siguranza. C'est aussi un effondrement moral. Il a perdu ses illusions et ses espoirs en un avenir meilleur vacillent. De plus, au plan affectif, sa compagne du moment le trahit et part vivre avec un docteur en Autriche. Le voici désemparé. Je le cite. plus d'idéal social, plus de foi dans l'art, plus d'amitié. Seul, étendu sur mon lit, les yeux fixés sur le plafond blanc de ma chaumière de Braila, je passais des jours et des nuits à lutter contre la folie et le suicide. Je ne voulais pas sombrer, je voulais comprendre. Comprendre les monstruosités de l'existence. On pense aussitôt aux citoyens de Genève, au Jean-Jacques Rousseau, des rêveries. Me voici seul sur la terre, n'ayant plus d'amis, de société que moi-même, le plus sociable et le plus aimant des humains. Même souci de justification devant les hommes, même amour de la nature, même sentiment de solitude et de persécution, même égotisme, même foi dans la nature de l'homme, qui est bonne, ou du moins serait bonne, sans les chaînes dont le charge la société. Cet amour désordonné de la terre. Il faut lire ce petit livre qu'il a intitulé « Pour avoir aimé la terre ». Eh bien, cet amour désordonné de la terre est le meilleur et le pire d'Istrati. Pour lui, il va rompre avec la société capitaliste. Pour lui, il refuse son adhésion totale aux principes pour lesquels il a d'abord combattu. « Je maudirai, dit-il, une société socialiste qui m'empêcherait de vivre à ma fantaisie. » Il est proche aussi de Rousseau, dans la question récurrente du bien et du mal. Le sentiment du bien et du beau, dit-il, dans Vers l'autre flamme, est infiniment plus puissant que celui du mal ou du lait. Et dans la préface de la Maison Thuringère, ces lignes. Pourquoi sommes-nous si sensibles au triomphe du bien et du mal? Pourquoi nous réjouissons-nous de la défaite du méchant? C'est parce que nous sommes nés bons. Mais ce triomphe et cette défaite, il ne faut pas les montrer aux hommes rien que dans les romans, au théâtre et sur l'écran. Il faut les leur prouver dans la vie, et voilà ce qui ne se fait que rarement. La Maison Thuringère marque une étape. La gauche communiste et trotskiste parle d'un livre réactionnaire, d'une défense de la bourgeoisie. Lisez-le, c'est plutôt un long cri d'angoisse et de désespérance. Mais Istrati n'a pas une croyance naïve dans l'âge d'or d'un paradis terrestre. Il ne prêche pas le retour à l'état de nature. Ce qu'il veut, c'est être libre de disposer à sa guise de sa plus grande fortune. Son corps, ses passions, sa pensée, sans rendre compte à aucun homme ni à aucune divinité. Les biologistes n'ont pas manqué non plus de le persuader que toute force qui se lève au-dessus de la masse humaine, et d'où qu'elle vienne, d'en haut ou d'en bas, ne fait qu'écraser son faible prochain. Istrati sait cela, mais il s'insurge contre cette fatalité. Où est-il écrit, dit-il, que cela doit continuer ainsi jusqu'à la fin des siècles? Je sais, des savants me rappellent sans cesse la biologie et ses lois. Non, non, si les universités n'enseignent que cela, à bas les universités. Je refuse de me considérer comme un oiseau de proie qui se nourrit du sang de ses congénères. Je suis un homme, c'est-à-dire la seule de toutes les créatures animales qui souffrent au spectacle de la souffrance de ses semblables. Il ne faut pas me confondre avec un fol épervier. Alors, à quoi servent toutes ces sciences, tous ces arts, tout le fumier de nos philosophies millénaires, puisqu'on n'est pas encore arrivé à défendre, sous peine de mort, de vivre du sang de son prochain? Pourquoi, du haut de vos chairs de morale et de religion, prêchez-vous le beau, le bien, le juste, puisque tous, jusqu'au dernier, vous ne faites en pratique qu'obéir aux lois de la biologie de l'épervier? Magnifique révolte contre l'hypocrisie des législateurs sociaux et des prêcheurs de résignation, qui masquent de la façon la plus perfide l'esclavage. Enfin revenu de ses illusions, Istrati garde pourtant sa foi dans la bonté, même si elle est perdue au milieu du troupeau humain. Car la bonté d'un seul, dit-il, est plus puissante que la méchanceté de mille. Le mal meurt en même temps que celui qui l'a exercé. Le bien continue à rayonner après la disparition du juste. On le voit, l'amour d'Istrati va à l'homme seul et non à l'homme organisé. Il cherche dans l'individu, à quelque classe qu'il appartienne, ce germe de bonté qui doit s'y trouver. Il veut des hommes conscients de leurs droits, mais non pas haineux, et s'il se révolte contre une injustice sociale, il ne condamnera pas sans distinction une catégorie d'hommes. Dans sa jeunesse, qu'il évoque dans le bureau de placement et la maison Thuringer, il a milité comme syndicaliste et fut secrétaire du syndicat des ouvriers et dockers du port de Braila. Il abandonnera cette lutte. La bourgeoisie n'est pas la seule ennemie. La solidarité de classe ne suffit pas. Il faut la solidarité universelle. Après quoi, dit-il, toutes ces doctrines, tous les dogmes, avec leurs interprétations confuses, me semblent bien stériles. Si le cœur de l'homme est si dur devant le mal d'autrui, tout est perdu. Les théories n'y changeraient rien. Elles apporteront au monde une apparence de justice, mais pas la justice. Ces amères réflexions le conduisent à se déclarer l'homme qui n'adhère à rien. Il faut entendre cela comme une non-adhésion au pacte social qui est imposé. Abandonné de ses amis, il s'isole. Il faut dire que la maladie fait, elle aussi, ses ravages. De son lit de tuberculeux, il écrit ses derniers livres, où l'on perçoit toujours son amour pour les déshérités. Solitaire et solidaire, voilà ce que je suis. Nous dit-il encore dans « Pour avoir aimé la terre ». Les masses, on ne les soulève qu'avec de la démagogie. Moi, je voulais les enrichir d'amour et de vérité. Puis, il dit encore, il ne faut pas prêcher la haine, car une classe victorieuse créera toujours des injustices et jettera dans la détresse d'autres couches sociales, et ce n'est pas là le suprême but moral de l'humanité. Voilà une vision idéaliste, bien sympathique, mais est-elle d'une grande efficacité? Il répond, il s'agit chez moi plutôt d'une mystique de l'honnêteté que d'une théorie sociale. Solidaire, Istrati l'est indéniablement. Il le montre de nombreuses fois lors de meetings politiques, comme par exemple pour la défense de Sacco et Vanzetti, ou encore contre la terreur blanche dans les Balkans. Il semble moins coopératif, sans doute par tempérament. L'aide, l'entraide, c'est une belle chose. Mais un jour, j'ai cru qu'elle allait m'éclater en plein visage. Ce fut le jour où une lettre inattendue vient me nommer membre de l'Institut international de coopération intellectuelle auprès de la SDN. J'ai tout de suite pris mon rôle au sérieux. Je coopérerai. Il y a beaucoup à faire. Dommage seulement que je sois si bête. Mais mon cœur y suppléra. Et ce jour-là, allant rue Montpensier, je baissai la tête devant le frontispice aux lettres d'or et je me dis, pensant à ma mère que j'ai tuée. Oui, ma bonne mère, tu es morte de chagrin. Mais voilà, ton sacrifice n'aura pas été vain. Je serai un homme honnête jusqu'au bout, utile à ceux qui sont restés dans notre hameau, ainsi qu'à tous ceux qui le quittent pour ne jamais arriver dans la cité lumière. J'ai prononcé ces paroles et aussitôt j'ai mis le pied dans le plat. Comme l'honorable institut, me nommant membre de la section asiatique, me demandait si je pouvais le renseigner sur les causes qui ont provoqué la disparition de l'artisan et des arts populaires en Syrie et Asie mineure, je répondis à brûle-pourpoint. Mais c'est simple, faites retirer de ces pays les soldats et les avions français qui jettent des bombes sur la tête des populations paisibles, et vous verrez renaître tous les arts disparus. L'actualité, hein ? Bon, la conception de l'art et de la littérature chez Istrati a évolué, au point qu'elle nous apparaît parfois contradictoire. Tantôt il nous dit « Dans cette nuit de la vie, l'art est notre seule lumière. » Et à quelques semaines d'intervalle, l'art est une supercherie à l'égal de toutes les autres prétendues valeurs. C'est dans la préface à la maison Thuringer. Eh bien là, il participe à l'entreprise de démythification, commencée bien avant lui, je pense à Rimbaud, je cite de mémoire, « L'art est une foutaise », ou je crois plus exactement, « L'art est une sottise ». Oui, sa croyance en la littérature comme instrument d'émancipation des hommes, en priorité la classe prolétarienne, comme vecteur révolutionnaire, eh bien, elle est devenue caduque. Il a été victime, un temps, de l'illusion du progrès. Non du progrès matériel, auquel Istrati n'a jamais aspiré, mais d'un possible progrès moral. En revanche, il est un des premiers à faire ce constat d'échec du projet collectif. Mais nous ne devons pas en déduire pour autant que l'art et la littérature n'offrent plus à Istrati aucun intérêt. Ce serait une grave erreur. Au contraire, ils gardent toutes leurs valeurs comme activité humaine et essentielle, surtout quand ils atteignent l'authenticité ou l'universalité. Ici, Istrati rejoint un Henri Poulaille dans sa critique de la littérature bourgeoise, l'un parle de littérature, l'autre de littératuraille, quand l'œuvre est par trop fabriquée, artificielle. Enfin, comme instrument pour accéder à la structure et à la connaissance de soi, pour accéder à tout ce qui est extérieur à soi, les lettres et les arts conservent toute leur valeur. En fait, les artistes, les grands hommes, l'ont déçu. L'art, domestiqué, n'est plus qu'un métier. Il veut pourtant continuer d'écrire, car cela lui est naturel, comme l'oiseau chante. Le miracle, avec Istrati, c'est que, ne voulant se prendre pour un écrivain, il réalise, à force de travail et grâce à ses dons de conteur, une œuvre littéraire à la fois unique et universelle, une œuvre dont il peut être fier car, ayant atteint le but qu'il s'était fixé, parler honnêtement à l'homme qui croit en vous, souffrir de toute la souffrance humaine et l'exprimer de tous ses moyens. Vous allez lire Kira Kiralina, Oncle Angel, Codine, et vous allez sentir, ainsi que les lecteurs de 1925, comme une bouffée d'air pur dans le ciel sophistiqué des lettres occidentales. Vous songerez alors aux mille et une nuits. Mais Istrati va bien au-delà. Il a subi toutes les influences de l'Orient. Amour, beauté, soleil de la Méditerranée sont omniprésents et comme intimement liés à sa nature généreuse, passionnée, sensible, assoiffée de bonté franche et de justice. L'amitié et la fraternité humaine, dont il a le culte, sont les piliers essentiels de sa personnalité. De l'Occident, il est imprégné de la culture des grands hommes et de l'espoir que suscitent les révolutions, malgré les désillusions récurrentes. Il est un homme de foi, j'ajouterais de foi religieuse, comprise ici dans le sens non dogmatique, caractérisé par sa fervente adhésion à la vie. Chez lui, tout sentiment est vécu intensément, qu'il s'adresse aux hommes ou à la terre envers lesquels il éprouve une fascination charnelle. En fin de compte, on a affaire à un être unique, à une œuvre unique. L'expression, le style, c'est l'homme, lui convient en tout point, car il nous livre un témoignage dénué de littérature, mais d'une grande beauté. Son souffle nous emporte à travers le monde des errances, de la nature, du peuple, de la liberté. Tel fut Istrati. Tel est Adrien Zografi, le personnage principal de ses récits, son double. Panayit Istrati meurt à Bucarest, hélas jeune encore, dans sa 51e année, le 16 avril 1935. Merci.